Hein, dessine.
Dessine, c'est un quartier de Lyon, c'est ça?
Oui. Bon, actuellement, c'est un banlieue, mais il y a un projet qui est.
Du Grand Lyon.
Voilà, le Grand Lyon, ouais.
Puis.
Et on peut dire même déjà, il fait partie du Grand Lyon, ouais. Partie du Grand Lyon. À l'est lyonnaise. C'est à l'est.
Voilà, c'est un quartier qui est en restructuration.
Le téléphone, tu le gardes là-bas. Ok. Ok, alors. Commence, Inch'Allah. Alors, salam alaikum. Je suis Anas. Comme d'habitude, j'ai à côté de moi Mohamed. Salam alaikum, Mohamed.
Alaikum salam, Anas.
Alors, on est le 22 septembre 2020. Alors, bienvenue à ce nouvel épisode des Randonneurs de la Pensée. Nous sommes aujourd'hui à côté de Lyon, précisément à la mosquée Rahman. À Dessines, qui est à côté de Lyon. Et nous avons le grand plaisir et le grand honneur de rencontrer Cheikh Imam Mohamed Minta, qui est l'imam de cette mosquée. Il a accepté notre invitation et on le remercie. Assalamu alaikum, Cheikh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Donc aujourd'hui, on fait une randonnée où on va parler de plusieurs thèmes. En l'occurrence, on va parler de la zakat, on va parler de la place de l'imam, on va parler de la spiritualité. Mais avant de parler de ces sujets très importants, on va commencer par une petite présentation de l'imam pour ceux qui vous connaissent pas encore. Qu'est-ce que vous pouvez dire succinctement sur votre personne?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما chers auditrices, chers auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc je suis votre frère en Dieu, Mohamed Minta. Je suis né le 19 décembre 1963 à Massena, au Mali, au centre du Mali. Donc j'ai passé mon enfance au Mali, j'étais à l'école coranique dans mon village qui est Adja. Donc j'ai appris le Coran. Bon, j'ai pas terminé mon apprentissage, notamment la mémorisation du Coran au Mali. Et à l'âge de 15-16 ans, je suis parti en Arabie Saoudite, à Médine, pour continuer mes études. Donc j'ai poursuivi mes études à Médine. Et je suis diplômé de la faculté de charia, droit musulman, de l'université islamique de Médine. Et en 1992, quand j'ai fini mes études à Médine, je voulais rentrer au Mali, mais étant donné que au Mali, la langue officielle, c'est le français, et moi, je n'avais jamais étudié le français avant, donc j'ai jugé nécessaire qu'il faut que j'apprenne le français pour être plus efficace dans mon rôle, dans mon travail de da'wa au Mali. Donc raison qui m'a mené en France ici en 1992, c'était pour apprendre le français, ensuite continuer mon chemin au Mali.
Alors, l'école coranique, c'était l'arabe et la langue locale.
Oui, c'était l'arabe. C'était surtout, oui, le Coran, l'apprentissage du Coran. Et aussi, initiation à la langue arabe.
Donc, est-ce qu'on peut avoir juste une idée succincte sur comment l'apprentissage de... Parce que je sais, c'est des écoles normalement traditionnelles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la méthodologie là-bas?
En fait, la méthodologie, au début, c'était uniquement l'apprentissage du Coran. Donc, je crois, à l'âge des 5 ans, j'ai été inscrit à l'école. Donc, on apprend d'abord l'alphabet.
Ah, ok.
L'alphabet arabe pour pouvoir arriver à déchiffrer. Donc, quand on finit d'apprendre l'alphabet, on commence l'apprentissage du Coran.
Ouais.
Donc, l'apprentissage du Coran.
C'est quoi? Donc, c'est avec les planches?
Oui, avec les planches. Ouais, exactement. Ouais. Avec les planches sur lesquelles on écrit. Ouais. En fait, chaque jour, on écrivait les passages qu'on devrait apprendre.
Exact. Ouais.
Donc, nous, on avait le cours le matin et l'après-midi. Mm-hmm. Donc, le matin et l'après-midi. Donc, en général, le matin, on vient pour réciter ce qu'on a appris la veille.
Ouais.
Et donc, quand le matin, si on a bien appris, on va laver la planche et on la laisse sécher. Ensuite, on va écrire les passages qu'on doit apprendre, les passages qu'on doit apprendre pour le lendemain. Donc, et là, l'après-midi, donc bien sûr, l'enseignant va nous corriger par rapport à la prononciation, il va nous corriger la lecture. Et donc, on commence à apprendre l'après-midi. Ensuite, le matin très tôt, après le soubh, on vient, on apprend. Et avant la fin des cours, bon, vers, je sais pas, 8h30, 9h, on va réciter ce qu'on a appris. Bon, en fait, comme je vous disais, c'était au village. Donc, le matin, quand on a récité, et avant de venir pour écrire ce qu'on apprend, on allait travailler pour le maître. Soit on va chercher du bois, soit on va chercher de l'eau, ou bien soit on va faire des travaux ménagères. Et voilà, c'était ça.
Donc c'est plus une école de la vie. Déjà.
Voilà, exactement.
Vous avez dit que c'était à l'âge de 5 ans, vous croyez. Donc c'était, j'imagine, une volonté déjà des parents. Comment ça s'organise?
Oui, c'était la volonté surtout de mon père.
D'accord.
C'était la volonté de mon père. Si vous voulez, mon père, il était fonctionnaire. Et au Mali, à l'époque, les enfants des fonctionnaires, ils étaient obligés d'aller à l'école publique.
D'accord.
Mais moi, mon père, il a fait l'école au Mali à l'époque coloniale. Ses parents, ils ont tout fait pour qu'il poursuive pas ses cours à l'école française.
Ah, d'accord.
Donc, à l'école française. Donc, mais ils ont tout fait pour l'enlever. Ils ont pas réussi. Bon, lui, quand nous, on est nés, il lui dit, ses enfants, notamment les garçons, tous, ils vont apprendre le Coran. Ils vont faire des études religieuses, quoi. Même si, au village, le niveau des études, c'était pas, il n'y avait pas des écoles spécifiques pour ça. Bon, en fait, c'était des écoles avec des chiouchs. C'est-à-dire, nous, quand j'ai fini mon apprentissage de Coran, j'avais commencé à apprendre des ouvrages de fiqh, de jurisprudence, notamment selon le rite malikite. Donc, c'était comme ça qu'on prend un livre, on étudie du début jusqu'à la fin. Après, on prend un autre livre, on étudie, ainsi de suite, ouais.
Ouais. Et qu'est-ce qui fait que un enfant au Mali aspire à aller à Médine ou ailleurs pour continuer ses études en charia?
En fait, il y avait mon oncle maternel qui était étudiant à Médine.
Ah.
Donc, qui était étudiant à Médine et qui avait proposé à mes parents de faire une demande pour moi et mon jeune frère. Et donc, mes parents, ils étaient d'accord. Donc, effectivement, moi, quand j'ai fini mon apprentissage du Coran, que j'avais commencé à apprendre, comme j'ai dit, les ouvrages de fiqh, et en même temps, aussi, j'avais commencé à enseigner. Donc, la demande, effectivement, à partir du moment où il a fait la demande, et avant qu'on reçoive la réponse, ça a pris 3 ans.
D'accord.
Ça a pris 3 ans pour qu'on ait la réponse, si on est admis ou pas. Donc pendant ces temps, donc j'étais au Mali, et bon, effectivement, à un moment donné, à l'âge de 15 ans, bon, moi je voyais que j'étais en train de grandir et j'étais conscient que au niveau des études, c'est pas, j'avais pas fait grand chose. Et en même temps aussi, mon père, il voulait pas que j'aille à l'école publique et il voulait pas aussi qu'on apprenne des métiers. Il dit, lui, il nous a dédié pour apprendre la religion.
Ouais.
Bon, à un moment donné, c'est vrai, à l'âge de, j'avais, 15 ans, mais je rentre dans ma 16e année. À un moment donné, moi, j'ai dit à ma mère, Allah yarhamha, j'ai lui dit non. J'ai dit, moi, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai dit, j'ai pas fait des études, j'ai pas appris des métiers, et je suis en train de grandir. Demain, je dois me marier, je dois fonder un foyer. Donc, moi, je ne vais pas rester à la charge de qui que ce soit. Donc, j'avais décidé de partir du Mali. Et que j'allais à l'étranger en aventure pour aller, pour travailler, pour faire ma vie, pour construire ma vie. Et subhanallah, moi, j'avais décidé de partir un jeudi. Je me suis préparé. J'ai décidé que je vais partir un jeudi. Et dans la semaine, mardi, je reçois la lettre d'admission à Médine. Subhanallah, vraiment, ces jours-là, j'ai dit Allah il m'aime. Je me suis dit Allah il m'aime. Pourquoi? Parce que j'étais très jeune, très enthousiaste. J'avais pas beaucoup de connaissances. Mon seul souci, réussir dans la vie. Et moi, à l'époque, réussir dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Et j'allais partir dans cette optique, même j'avais dit à ma mère, bon, je lui dis, je vais partir. Si, alhamdoulilah, j'ai réussi dans ma vie, je reviendrai. Si je ne réussissais pas, je ne serais pas à la charge de qui que ce soit. Donc, j'ai parti avec cette option. Et moi, je devrais partir jeudi. Mardi, j'ai reçu la lettre d'admission de Médine.
Ah, bah, c'est coïncidence. On a aussi parlé de la coïncidence de Cheikh Youssef Ibrahim quand on a fait l'enregistrement. Lui aussi, il a une coïncidence assez particulière. Vous pouvez revenir l'écouter dans son épisode. Et l'expérience de Médine, c'était...
Ah non, l'expérience de Médine, vraiment, c'était une très, très, très grande chance pour moi et pour mon jeune frère. Parce que imaginez quelqu'un de fin fond du Mali qui part à Médine à l'âge de 15-16 ans. Donc, j'arrive à Médine et puis surtout à l'époque, Médine, ce n'était pas le Médine d'aujourd'hui.
C'est encore le désert.
C'était, je me souviens, je suis arrivé en 1980 à Médine. Donc, Médine, c'était encore une ville, une ancienne ville. C'était vraiment... Donc, vraiment, c'était une très, très grande chance pour moi. Vraiment, c'est... En fait, je n'ai rien d'autre à dire que Allah m'a donné une occasion, une chance qui est inestimable, quoi. Vraiment, donc, j'étais très content, très heureux de me trouver à Médine, la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, j'avais poursuivi mes études, comme je vous disais, moi, j'ai fait l'école coranique au Mali. Donc, arrivé à Médine, j'ai poursuivi, mais j'ai fait des approfondissements de la langue arabe. Ensuite, j'ai poursuivi mes cours collège, lycée. Moi, j'ai fait collège, lycée et l'université à Médine.
Moi, j'aimerais revenir par rapport à la décision de votre père. Pourquoi la décision de pas vous mettre dans une école publique?
Oui, puis c'est en fait, il faut savoir qu'à l'époque, notamment les parents qui étaient, si vous voulez, très attachés à la religion, ils aimaient pas trop mettre leurs enfants dans l'école publique. Parce que l'école publique, à l'époque, ils disaient, ils formaient les gens pour les éloigner de la religion.
D'accord.
Pour les éloigner de la religion. On voyait beaucoup de jeunes, par exemple, quand ils ont le bac, par exemple, quand ils partent à l'étranger pour étudier en France ou en Russie ou je sais pas, en Allemagne ou n'importe quel autre pays, très souvent, la majorité revient. En fait, en réalité, on leur a lavé le cerveau.
D'accord.
Donc, ils reviennent, ils sont noirs de peau, mais dans leur tête, ils sont blancs.
Okay. D'accord, d'où le...
Et donc, au début des années 90, vous êtes venu en France avec l'objectif d'apprendre la langue
le
et
français.
De revenir.
Le français la langue, et après continuer revenir. Et pas repartir au Mali.
Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé
En fait, moi, dans ma vie, et notamment en tant qu'étudiant, par la grâce de Dieu, j'étais très discipliné. J'ai planifié les choses, c'est-à-dire j'ai programmé. Chaque fois que je vais faire quelque chose, je me donnais des temps, je me donnais un objectif. Donc, avant de venir en France ici, je me suis dit, au maximum, je vais rester 2 ans en France. J'ai considéré que en poursuivant des études, notamment des écoles spécialisées pour l'apprentissage de la langue, je jugeais que 2 ans serait suffisant pour moi pour bien apprendre le français, ensuite continuer mes études. Bon, je suis venu avec un peu d'économie que j'avais d'Arabie Saoudite pour étudier ici. Donc effectivement, je me suis inscrit au CIF, Centre International d'Études Françaises, à l'Université Lyon 2. J'ai fait une première année. Donc très bien, qui s'est très très bien passé. Et au deuxième année, j'avais pas suffisamment de moyens pour m'inscrire, puis c'est les inscriptions au centre de formation, c'était beaucoup plus cher que n'importe quelle autre filière, comme, donc, j'avais pas beaucoup de moyens. Alors que le 1 an que j'ai fait, bon, j'ai bien progressé, mais pour moi, ce n'était pas suffisant, Et ma deuxième année, j'avais pas suffisamment de moyens de m'inscrire pour pouvoir poursuivre l'étude de la langue arabe. Bon, j'étais obligé de m'inscrire à Lyon 2 au département des études de langue arabe et des études islamiques, mais ça, c'était vraiment, j'avais pas autre, c'était beaucoup plus facile que d'autres. Donc, dès ma première année, j'étais sollicité ici à Décines pour faire l'imam. Puis en fait, ça faisait un an que la salle des prières venait d'ouvrir. Donc, ils ont eu plusieurs imams. Donc, à l'époque, vraiment, ils avaient du mal à
trouver un imam stable.
Non, un imam stable, ouais, puisque même aussi, c'était la population aussi.
Ouais, c'était parce volontaire.
Parce qu'il y avait, en réalité une forme de racisme. Mm-hmm. C'est-à-dire, quand l'imam était algérien, les Tunisiens et les Marocains, ils sont pas contents, ils vont lui faire tout pour que, jusqu'à ce qu'ils partent. Quand l'imam est tunisien, les Algériens et les Marocains. Et voilà. Donc, ils ont eu plusieurs imams avant que j'arrive. Au point où il y a certains jeunes, ils me racontent, ils me disent, notamment il y a l'un des frères qui est mon voisin, il dit, on faisait doya Allah, amène-nous un imam qui n'est ni algérien.
Voilà, indépendant.
Voilà, voilà. Ouais. Donc il dit, il faisait doya dans ce sens-là. Et moi, quand je suis arrivé à Lyon ici, je rencontrais un frère algérien qui était étudiant à l'UNA de Lyon. Algérien. En fait, lui, ils l'ont sollicité deux ou trois fois pour venir faire le Jouma, la prière du vendredi. Après, il a dit, moi, je cours le vendredi, mais par contre, je connais quelqu'un, un Malien, qui a étudié à Médine, qui vient d'arriver. Si vous voulez, je vous donne ses coordonnées. Donc, ils ont dit oui. Donc, et ils m'ont contacté, ils m'ont sollicité si je pouvais venir faire la prière du Jouma. Bon, moi, les vendredis après-midi, j'avais pas cours. Mm-hmm. Donc, j'avais pas cours. J'ai dit, oui, je peux venir. Donc, je suis venu pour une première fois. Pour moi, c'était un dépannage. Une première fois. Donc, j'ai fait la prière de Jumra. Et après, ils m'ont dit, est-ce que vendredi prochain aussi, vous pouvez venir? Je leur ai dit, oui, je peux venir. Et chaque fois, vendredi prochain, vous pouvez venir. Chaque fois, vendredi prochain, vous pouvez venir.
C'est comme ça, en général, comment ça se passe. Hein.
Donc, jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui,
ouais.
Donc là, ça fait...
Ça fait depuis 93.
93, ça fait quoi? Ouais. Ça fait 40 ans? Non, 30 ans.
Presque 30 ans, ouais.
Presque 30 ans,
ouais. Ouais.
Inch'Allah. Ben, on va profiter peut-être, sauf si tu as encore une question. On va profiter justement, puisque tu es imam depuis 93.
Oui.
Pour justement discuter de cette idée de l'imam. Mm-hmm. Le rôle d'un imam, la place d'un imam dans la communauté, et puis qu'est-ce qu'on attend de lui, comment ça a évolué, etc. Je sais pas si on peut commencer par comment vous définissez le rôle d'un imam. Mm.
En fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a défini ce qui veut dire l'imama. Mm-hmm. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de ses prophètes et ses messagers, il dit « وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةٌ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا » Et nous en avons fait d'eux des guides qui guident par notre ordre. Donc, un imam, c'est un guide. Effectivement, moi, quand j'étais sollicité de l'imama ici, je ressentis, notamment, pas la première fois, au bout de deux ou troisième fois, je ressentis que j'ai une mission à accomplir ici. En fait, il faut savoir que la mosquée est centrale dans la vie de la communauté musulmane. Mm-hmm. La mosquée est centrale. Mm-hmm. Parce que quand vous regardez, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a immigré de la Mecque à Médine, la première chose que le prophète il a fait, c'était la construction de sa mosquée. Mm-hmm. La construction de sa mosquée. Mm. Donc, et ça nous montre la centralité de la mosquée dans la vie de la communauté, dans une communauté. Puisque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée, c'était le lieu qui illumine la vie des musulmans, spirituellement, culturellement, scientifiquement, socialement. Donc, toute la vie était axée autour de la mosquée. Donc, certes, aujourd'hui, la vie a évolué. Donc, la manière de gérer la cité est différente aujourd'hui. Mais la mosquée a toujours sa centralité, notamment dans la vie d'une communauté musulmane. Le vendredi dernier, je disais dans le prêche du vendredi que lorsque vous voulez mesurer les degrés de la vie d'une communauté, parlant comme une communauté musulmane, dit de garder la mosquée. Mm-hmm. Si la mosquée est vivante,
ouais.
c'est une communauté qui est vivante.
Ouais.
Mais si la mosquée, elle est morte, ouais. dans le sens où la mosquée n'est qu'un lieu où on vient faire sa prière et partir, il n'y a rien d'autre. Donc, en fait, il faut savoir que ces gens, ils sont morts, même si ils marchent sur leurs pieds.
Je m'excuse, je vais juste te couper parce que le premier mot, on est rentré là tout à l'heure, le premier mot que j'ai dit à Mohamed, c'est que, mashallah, il y a de la vie. C'est le même mot que j'ai utilisé. On est rentré, le premier mot que je lui ai dit, mashallah, il y a de la vie. Et il y a des gens en parlent, subhanallah. Donc, oui.
Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est pour cela. Et la pièce maîtresse d'une mosquée, c'est l'imam. Puisque c'est l'imam qu'on a choisi pour guider pour nous guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si c'est l'imam qu'on choisit pour nous guider vers Allah, donc, certes, ce choix, normalement, est basé sur des critères, sur la connaissance, sur la piété, et aussi sur l'exemplarité que l'imam doit être. Donc, lorsqu'on choisit l'imam avec ses critères pour qu'il nous conduise vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça veut dire la place de l'imam est centrale et primordiale. D'ailleurs, même quand vous regardez, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les compagnons, ils étaient dans la réflexion de choix des successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'argument décisif que Omar il va utiliser pour désigner Abu Bakr, comme que c'est l'imam, il dit, le prophète, il a choisi pour nous, pour notre religion. Est-ce que nous ne devrons pas l'accepter pour notre vie terrestre? Pour notre vie terrestre. Donc, en réalité, l'imam a un rôle très, très, très important dans la société musulmane. Non seulement sur le plan religieux, mais même aussi sur le plan social, éducatif, sur le plan social, éducatif, et aussi sur le plan culturel, sur le plan de la pensée.
Justement, tu as dit très important. J'imagine que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des complications, si on veut dire ça, parce que très important veut dire beaucoup de responsabilités et très compliqué aussi.
Très compliqué,
donc,
ouais.
On sort de Médine, on a déjà, on va dire, un bagage important religieux.
Ouais.
Ce bagage religieux, il faut peut-être l'adapter au contexte culturel et sociétal.
Ouais.
Donc, comment toi, tu as évolué un petit peu dans les années 90, comment ton chemin s'est tracé, on va dire, c'est déjà le dé, jusqu'à aujourd'hui, pour avoir donné un centre tel qu'il est aujourd'hui, parce que c'est pas une simple mosquée, c'est un centre. Hein, il y a mosquée et mosquée. Donc, pour ceux qui connaissent pas des signes, là, je viens de découvrir, c'est en face de l'école des El Kindi. Donc, ça élimine aussi... tout ce qu'il y a autour. Donc, comment la pensée, elle a évolué? Comment le rôle de l'imam, il a évolué, ton rôle à toi, des années 90 à aujourd'hui? Du simple khatib, on va dire, de dépannage, à celui d'un imam qui a toute sa place au-delà de la prière culturelle, de l'aspect culturel.
Très bien. En fait, il faut savoir, c'est vrai, quand je suis arrivé ici, c'est un très grand choc culturel. Parce que, comme je vous disais, j'ai passé mon enfance à Médine, mon enfance au Mali, adolescent, je pars à Médine. Donc, comme vous le savez bien, que la vie sociale, le contexte au Mali et en Arabie Saoudite, ce n'est pas la même qu'en France. Donc, quand je suis arrivé en France, c'était vraiment un vrai choc culturel pour moi. Mais quand j'ai commencé à faire l'imaman à la mosquée ici, bon, c'est vrai, par la grâce de Dieu, je pense aux les études que j'ai fait aussi, ça m'a permis d'avoir cette ouverture d'esprit. Ça m'a permis d'avoir cette ouverture, si vous voulez, moi, dans mes études, notamment des fiqh, j'ai fait des fiqh comparés. J'ai fait le fiqh comparé, donc qui fait que je n'étais pas fermé sur un avis, sur une position. Non, j'avais, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, cette faculté, ouverture de pouvoir reconnaître d'autres avis, d'accord, d'autres positions, analyser, accepter, c'est que donc voilà, donc qui a fait que quand je suis arrivé ici, j'ai vu il y avait beaucoup de jeunes, bon, quand j'ai dit beaucoup de jeunes, il y avait quelques jeunes qui vraiment à peine ils venaient de commencer à faire la prière, voire même le moins jeune aussi. même le moins jeune aussi. Ouais. Vraiment, comme je disais, la salle de prière, ça faisait un an que la salle de prière était ouverte dans le quartier. Donc, quand j'ai commencé, c'est vrai, il y avait des choses. Bon, je me suis rendu compte que la population, elle est novice, notamment en matière de la religion. Que les gens ignoraient beaucoup de choses en matière de la religion. Et même aussi, en termes d'éducation, ils n'ont pas été éduqués selon le précepte de l'islam. Donc, j'ai vu que ces gens, ils ont besoin d'un accompagnement. Il faut les accompagner, il faut leur apprendre. Il faut les accompagner, leur apprendre. Bon, c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, que quand j'ai commencé au bout de peut-être deux ou troisième Jumu'ah, vendredi ici, j'ai eu ce sentiment que j'ai une mission à accomplir ici. Que j'ai une mission à accomplir. Bon, moi, jusqu'ici, je me voyais, je vais rester 2 ans, pas plus. pas plus. Mais je me suis dit, pendant ces 2 ans, quand même, je vais faire... Ouais. Je vais essayer de les accompagner. Voilà, je vais essayer de les accompagner, de faire quelque chose. À l'époque, le local qu'on avait, c'était un local qui a été mis à la disposition d'une association de jeunes du quartier. Au départ, c'était pas une mosquée, c'était un local que la mairie avait mis à la disposition des jeunes du quartier.
D'accord.
Et les jeunes du quartier, en voyant leurs parents qui faisaient tarawih pendant le mois de Ramadan dans des garages, et ils ont construit un mur en fait pour séparer en fait ils ont partagé le local en deux, une partie qui est restée pour les activités associatives et l'autre partie ils en ont fait une salle de prière pour leurs parents. Donc et à l'époque que le propriétaire de ce local parlait de vendre ce local. Bon, comme l'association qui gérait en quelque sorte ce local, c'était des jeunes et ils ne se voyaient pas qu'ils auront de moyens pour pouvoir acheter. Donc, à l'époque, donc ils espéraient qu'il y avait une autre association qui leur promettait de dire bon, on va vous acheter le local, on va laisser entre vos mains. Donc moi, j'étais tout nouveau en ce moment. Jusqu'à ce que, après moi, quand j'ai dépassé les 2 ans ici, j'ai vu que je ne partirais pas tout de suite. Donc, je me suis dit, bon, j'avais toujours cette envie de repartir au Mali. Ouais. Mais je me suis dit quand même, avant que je parte, il faut que je fasse en sorte qu'on arrive à acquérir un lieu pour nous. Et notamment, vers les années 95-96, donc, la mairie nous a fait, en fait, effectivement, c'est la mairie qui a acheté le local de son propriétaire. Donc, ils avaient un projet de démolir, c'est un ancien centre commercial, de démolir le centre commercial, de créer un centre où il y a diverses activités. Donc, quand la mairie a acheté, ils nous ont dit, il va falloir que vous cherchiez un autre local. D'accord. Donc, c'est à partir de ce moment-là, dans les années 96-97, on était au pied du mur. Donc, j'étais à l'initiative de la création de l'association qui gère la mosquée aujourd'hui. Donc, l'association Al-Islah, la réforme. Donc, j'ai motivé les frères de dire à créer une association. Donc, on a créé l'association en 97. Après, on a commencé à collecter le vendredi, à motiver les gens. Au départ, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que certaines personnes qui sont vraiment de mauvaise foi, ils ont commencé après la création de l'association. Nous, quand on a commencé à collecter des fonds, de dire on a un projet d'acheter un local pour nous. Les gens, il y a des gens qui commencent à dire non, ne leur donnez pas, ils vont voler l'argent, ils vont le prendre, ils vont partir avec. Donc, quand j'ai vu que des gens qui parlent de cette façon, j'ai fait une khutba qui était un coup de bâton que j'ai leur dit
inchallah. En tout cas, chez Minta, il y a pas de jeudi en fait, parce qu'il est jamais parti. Et donc, même si tu avais programmé de partir jeudi depuis, donc le jeudi n'existe pas, c'est sûr.
Oui, j'ai fait une khutba pour dire, Inch'Allah, il y a des hypocrites qui disent qu'il ne faut pas donner l'argent, que nous, on va voler. J'ai dit, vous allez voir, Inch'Allah, qu'on aura acheté et que les musulmans ici à Décines, ils ont quelque chose.
L'initiative de chaque projet, il y a toujours voilà, y a des toujours, contradicteurs voilà, et donc ça, c'est exactement. Toujours le moyen de.
Voilà, exactement pour déstabiliser.
Contrecarrer, voilà.
Donc, on a créé l'association en 97 et en 99. Ici, en fait, à la place de ces bâtiments, il y avait une petite maisonnette qui avait, il y avait une usine de fabrication de biscuits. Mm-hmm. Et au-dessus, il y avait deux appartements, donc qui étaient mis, qui étaient mis en vente. Et en même temps, on était en train de négocier avec la mairie qu'il y avait un terrain qui n'est pas loin, qu'on allait acheter. Donc, quand on a su que ici c'était en vente, on a trouvé, bon, que c'était beaucoup plus facile pour nous d'acheter quelque chose existant, d'aménager à l'intérieur, que de partir sur un terrain nu. Donc, quand on a, comme j'ai dit, l'association l'a créée en 97, et en 99, on avait 250 000 francs. Mm-hmm. Hein, 250 000 francs en deux ans. Ouais, on avait pu collecter 250 000 francs. Donc, au moment où on a signé le compromis d'achat ici, donc le propriétaire nous a demandé de donner comme avance 120 000 francs. Donc, 120 000 francs. Et après, il fallait collecter 1 100 000.
Et en total.
Francs. Entre francs. Ouais. 1 100 000 francs. Ouais. On avait 3 mois.
Ouais.
Et on avait 3 mois. Je me souviens, certains frères, quand ils ont su qu'on avait signé le compromis d'achat, ils sont venus me voir, Mohamed, en me disant, Mohamed, moi, je te conseille, mais vous êtes fou. Il me dit, vous êtes fou? Il dit, mais en 2 ans, vous avez collecté 250 000.
Ouais.
Et en 3 mois, vous voulez collecter 1 100 000. Il dit, mais vous êtes fou? Ouais. Il dit, Mohamed, moi, je te conseille, on va négocier de récupérer l'avance que vous avez donnée avant de le perdre.
Ouais.
Que j'ai dit au frère, merci beaucoup, barakallahu fik. J'ai dit, en tout cas, moi, j'ai été toujours confiant et j'ai toujours motivé les frères de dire, n'ayez pas peur. Si nos cœurs ils sont purs et que nous sommes sincères, nous voulons faire pour Allah, Allah il nous aidera. Avec l'aide d'Allah, il n'y a pas d'impossible. Mais si on veut pour autre chose, on n'y arrivera pas. Donc, et effectivement, alhamdoulilah, et en 3 mois, nous avons pu collecter les 1 100 000. Les 1 100 000, bon, bien sûr, pas la totalité comme don, mais on avait à peu près 300 000 de dettes que des gens ils nous ont prêtées.
Ah ouais, ouais,
des gens ils nous ont prêtées pour pouvoir boucler les budgets pour l'achat des premiers sites. Donc, en 99, nous avons acheté la maisonnette qui était là. Donc, mais il fallait faire des travaux d'aménagement puisque c'était, comme je vous disais, une ancienne usine et aussi avec des appartements. Et donc les gens, ils nous ont dit, les fidèles, on va commencer les travaux. J'ai leur dit non, on commence pas les travaux. On va rembourser d'abord des gens qui nous ont prêté de l'argent et après, on fera les travaux.
Donc, on parlait du rôle de l'imama, on est passé sur la construction de la mosquée, donc l'évolution de la petite salle.
Voilà,
dans le rôle de l'imama, là, c'est plus qu'un guide. Là, il y a le rôle du gestionnaire.
Ouais, bon, puis en fait, si vous voulez, autour de moi, il y avait des jeunes gens qui, la plupart, ils étaient encore au lycée, peut-être dans leur première année des études de l'université, et des, entre guillemets, des Chebani. Des Chebani qui sont à la retraite ou bien proches de la retraite. Donc, en fait, il fallait que je les accompagne même pour la gestion de l'association.
Ouais.
Donc, effectivement, ce qu'on va faire, on va rembourser d'abord les gens qui nous ont prêté de l'argent. Après, on va commencer les travaux. Et en 2001, on a fini les travaux d'aménagement et on est rentré ici. Donc, les deux appartements qui étaient au-dessus de l'usine, on les a transformés en salle de classe. Puis au départ, certains frères, ils disaient, oui, on va mettre un appartement en location. Et l'autre appartement, l'autre appartement, on va donner à l'imam. Moi, je leur ai dit non, j'en ai pas besoin. Puis, alhamdoulilah, j'avais un appartement. J'ai dit non, ce local, nous avons acheté avec l'argent des musulmans. Il doit être au service des musulmans. On va en faire une école. On va enseigner éduquer les enfants de musulmans. Bon, ils étaient réticents. Certains étaient réticents en disant non, l'école, ça va être un gouffre financier. On va pas s'en sortir. Déjà, on a du mal à s'en sortir. Encore une école, ça va être un gouffre financier. Bon, j'ai essayé de discuter avec eux, Billatihi Ahsan, mais à un moment donné, j'étais obligé de taper les poings sur la table en leur disant, si vous voulez pas que ça soit une école, moi, je resterai pas avec vous parce que je vois pas l'intérêt que je reste dans ce projet. Bon, ils ont fini par accepter. Je leur ai dit, Inch'Allah, l'école, il va arriver à s'auto-financer. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Il y a quand même 30 ans. 30 ans que vous étiez dans la même association.
Ouais.
Il y a eu des quelques turbulences, d'après ce que je comprends.
Bien sûr.
Mais c'est, je crois que c'est assez rare, hein, 30 ans, un imam dans.
Ouais, bon, en tout cas, je connais
toujours la même association. Ouais, donc aujourd'hui, le centre, il est géré
par la même association.
C'est quand même rare, non?
Ouais. Non, bon, oui. Bon, en tout cas, je connais pas quelqu'un qui est dans ma situation, qui ça fait 30 ans.
Il
est sur, voilà.
Je sais que dans la gestion des mosquées, etc., quand il y a un conflit qui apparaît, c'est souvent quand il y a un intérêt pécunier, enfin, d'argent, je suis, par rapport à un projet, pas d'argent personnel, etc. Et c'est souvent là que l'imam soit, il est débarqué, ou soit justement, il y a le bureau qui démissionne et qu'après, il y a un vide dans la gouvernance.
Ouais. Donc,
là, il y a quand même de ta part, une prise de position forte.
En réalité, si vous voulez, c'est vrai, j'étais à l'initiative de la création de l'association. Bon, même à un moment donné, j'étais imam et président de l'association, mais aussi, j'ai poussé toujours à prendre la responsabilité. À un moment donné, les gens, notamment les jeunes, ils voulaient pas prendre la responsabilité. J'ai démissionné.
D'accord.
De ma poste en tant que président de l'association pour les obliger à prendre la responsabilité.
Ça c'est un point important, justement. Mmh. Parce que dans beaucoup de mosquées, l'imam, il fait en fait son rôle spirituel, religieux, de la prière et puis les autres fonctions annexes. Mais souvent aussi, il est impliqué dans la gestion. Parfois, il est complètement ignoré. C'est un fonctionnaire. Il vient, il fait son travail, il a un contrat, etc. Et ici, on voit que au début, vous aviez aussi bien la responsabilité administrative et l'imama.
Oui.
Mais tu pensais à un certain moment que c'était pas bon.
Non, en fait, moi, c'est vrai, j'ai trouvé que ce n'est pas normal que je sois l'imam, en même temps que je sois président de l'association. Et en fait, moi, je voulais surtout impliquer les gens à prendre des responsabilités. Mmh. Et à prendre des responsabilités. Donc, si vous voulez, on avait fait... Donc, si vous voulez, à la création de l'association, il y avait l'un des fidèles de la mosquée qui était très actif, qui était plus âgé. On l'avait mis comme président de l'association. Donc, jusqu'à quand on a acheté le local ici, donc j'ai dit la création de l'association, c'était en 97. Donc, on a acheté le local ici en 99. Et en 2001, on est rentré dans le bâtiment. Mmh. On est rentré en 2001. Donc, après 2001, ses frères, c'était quelqu'un qui est âgé. Il est plus souvent à l'étranger, en Tunisie, à l'occurrence.
Il a dit, lui rendre hommage.
Non, voilà, c'était Abdelaziz Hassan, qui était le premier président de notre association. Donc, il a dit, moi, je préfère démissionner parce que je suis plus souvent en Tunisie qu'ici.
Ouais.
Donc, effectivement, j'étais à l'époque le vice-président de l'association. Donc, je suis devenu président de l'association.
Ouais.
Donc, je suis resté président de l'association de 2001 jusqu'en 2006. De 2001 jusqu'à 2006. Donc, à chaque année, donc normalement, nous, on faisait une assemblée générale pour pouvoir changer les membres du bureau. Et chaque fois que je leur ai proposé un changement, ils ne voulaient pas.
Ouais.
Chaque fois que je leur ai proposé, ils ne voulaient pas. À un moment donné, j'ai vu qu'il faut
les mettre. Mais dans un monde idéal, est-ce que tu penses que l'imam doit être très impliqué dans l'administration du centre, où il n'y a pas que la salle de prière, il y a aussi l'école en général, il y a les autres services. Est-ce que l'imam doit plutôt être très impliqué dans l'administration ou doit avoir un contrat avec l'administration qui est indépendante, idéalement dans un monde idéal?
L'idéalement, puis c'est dans un centre, moi je vois, dans un centre comme le nôtre, c'est un centre où il y a un spirituel, il y a un social. Donc, étant donné que l'imam, c'est un guide, moi, je trouve l'imam à sa place même dans la gestion, d'accord, dans l'orientation de l'association. Mm-hmm. Donc, dans l'idéal, il vaut mieux que l'imam soit beaucoup plus libre pour exercer tout ce qui est l'enseignement, l'éducation, l'accompagnement spirituel, même aussi, si vous voulez, on en a parlé, le rôle de l'imam, ce n'est pas seulement guider un imam aujourd'hui en France, c'est un guide spirituel, c'est un conseiller familial,
ouais.
C'est un assistant social,
ouais.
C'est en fait,
c'est un porte-parole aussi envers...
Voilà, l'imam, il a multi casquettes en France ici, donc aussi, il joue beaucoup de... Donc, moi, je vois qu'il a son mot et aussi ses conseils, ses orientations par rapport à la gestion du centre ou à la gestion du... Mais, de préférence, il vaut mieux qu'il y a d'autres qui s'occupent de tout ce qui est administratif. Ouais. Mais en même temps, c'est pas... On va reléguer l'imam comme un simple salarié de la mosquée ou de l'association ou bien... non, que de dire dans ton rôle, c'est juste guider là. Non, il a son rôle. Il a son mot à dire par rapport à l'orientation, aux décisions et aussi, comment dirais-je,
quoi. Ça doit se caractériser par, on va dire, de manière contractuelle. Est-ce que ça doit, parce que tu as dit salarié, est-ce que ça doit se caractériser dans un cahier des charges de dire dès le départ, lui-même c'est ça. Il a des prérogatives sur ça doit être de la bonne entente.
Non. Si. Dans la meilleure des cas, dans la bonne entente, c'est très bien, mais malheureusement. Ouais. Très souvent, la bonne entente, les uns ou les autres respectent pas leurs limites et leurs. Donc, il vaut mieux que ça soit écrit, ça soit clarifié, ça soit clair. Bon, en fait aussi, si vous voulez, en réalité, ce que j'ai envie de dire, les imams diffèrent d'une mosquée à l'autre. Dans certaines mosquées, il y avait une association qui existait déjà. Qui a tout fait pour la mise en place du centre ou du mosquée, en fait, qui a fait venir un imam pour l'imama. Ouais. Donc, c'est l'imam, il vient, tout est déjà mis en place. Donc, dans ce cas, l'imam, il vient en tant que, comme, je sais pas, salarié, fonctionnaire du centre ou de l'imam, de la mosquée, et il devra avoir un cahier des charges. Mais, en même temps, même cet imam, je pense, tant que c'est un centre qui a un rôle religieux qui est communautaire, je trouve ça serait insensé d'exclure l'imam dans les orientations, dans les décisions, dans ces conditions. Et mon cas, ce qui est différent, mon cas, c'est quand moi je suis arrivé, en quelque sorte, on n'avait rien. Je suis à l'initiative de ce projet qui fait que donc j'étais impliqué depuis toujours dans la gestion comme dans... Voilà.
En fait, nous, ce qu'on veut, on veut justement... ton cas, c'est un cas spécial.
Voilà, c'est ouais, fait exactement. Ouais.
Mais on se demande toujours, il y a toujours des problèmes dans la gouvernance, dans les mosquées, et qui posent un problème pour la stabilité sur le long terme.
Tout à fait.
Et donc, c'est toujours très bien de réfléchir, c'est quoi ce modèle de gouvernance?
Oui.
Est-ce qu'on va adopter le modèle des entreprises, où il y a un conseil, il y a des contrats de travail, il y a des objectifs, etc. Ou est-ce qu'il faut trouver un autre moyen bicéphale où il y a l'imam aussi qui guide, etc., le conseil, etc. C'est pour ça qu'on se demande. C'est très bien.
En fait, en réalité, moi, je trouve que c'est une erreur de gérer une mosquée ou un centre islamique comme une entreprise. C'est une erreur, à mon humble envie. Mais par contre, il faut trouver un système où, bien sûr, en fait, il faut que l'imam a un contrat. Puis c'est en fait ce qui est le problème aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup des imams, soit ils ont un contrat précaire, ou bien soit ils n'ont pas du tout un contrat. C'est-à-dire, il va travailler en tant qu'imam, il n'a aucun avantage, c'est-à-dire... ni le chômage, ni la sécurité, ni en fait réellement...
C'est un volontaire.
Voilà, c'est un volontaire. Okay. Des fois même, dans le contrat, l'imam, c'est un animateur ou un éducateur. Non, en fait, si vous voulez, j'ouvre entre guillemets. À Lyon, ici, il y a les conseils des imams du Rhône, qui est créé depuis maintenant à peu près 3 ans. Nous sommes en train de réfléchir réellement sur les statuts de l'imam et aussi la relation de l'imam avec avec l'association, les associations qui gèrent les mosquées. Donc, nous avons commencé un travail.
Il y a des publications sur ça.
Pas encore.
C'est géré en fait comme une entreprise, dans le sens où il y a l'employeur, les salariés, en fait, des conseils qui viennent prendre des décisions stratégiques.
Quand j'ai dit, c'est-à-dire quand on
Moi, je trouve que c'est une bonne chose.
En fait,
l'entreprise, dans le sens où il faut faire de l'argent.
L'entreprise, c'est-à-dire dans la gestion. En fait, dans la structure. Mais je veux pas que dans la mosquée, qu'on soit comme une entreprise. Il y a un PDG et l'imam, c'est un simple salarié. Donc, c'est ça, dans ce sens-là. Côté organisationnel, le côté organisationnel, il faut le faire. C'est-à-dire, il faut que l'imam un contrat de travail, un cahier de charges, défini, et aussi qu'il faut établir des règles entre la relation de l'imam avec l'association qui gère et aussi avec.
C'est un sujet important parce que dans beaucoup de mosquées, il y a des parties prenantes et il y a des problèmes. Plusieurs fois, il l'a répété dans des podcasts ou même dans des discussions en off, aux États-Unis, par exemple, les associations sont gérées comme des entreprises, associations culturelles, et que c'est des modèles de réussite. Ouais. Après, il y a sûrement des désavantages d'autres problèmes qui sont créés, mais c'est des modèles de réussite. Contrairement au pur système associatif, où un petit peu entre parenthèses, c'est du fisabilillah, et qu'au nom du fisabilillah, on peut faire comme on veut.
En fait, ça ne peut pas continuer.
J'ai pas de chiffres,
ça ne peut pas continuer. Il y a énormément de problèmes. Il y a énormément de problèmes dans les associations, dans les associations qui gèrent le mosquée. Il y a énormément de problèmes. D'où réellement, il y a une nécessité d'arriver à définir un modèle de gestion des mosquées, vraiment qui tient compte de l'importance de l'ordre, du rôle de l'imam.
Ouais.
Non seulement à guider la prière, même aussi dans la gestion, qu'il soit pas directement les gestionnaires
dans stratégique, dans l'orientation stratégique.
Moi, ce que je préconise, par exemple, quand il y a des réunions importantes ou des décisions, moi, je dirais même que dans l'association, il faut que l'imam fasse d'office un membre de conseil d'administration. Quand il y a des délibérations, des réflexions, il est là pour donner son avis, pour participer.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de la formation d'imams. En France, il y a beaucoup d'instituts. Tu fais partie de l'Institut Chatebi qui fait beaucoup de formations. Il y a d'autres instituts en France ou ailleurs.
Ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait ses formations et qui devient imam, est-ce qu'il peut vivre décemment aujourd'hui en France
le plus grand problème, c'est là. Le fait que c'est vrai aujourd'hui, la fonction de l'imam, ça n'attire pas les jeunes. Et ils ont raison. Ça n'attire pas les jeunes, et ils ont raison aussi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, comme j'ai dit, on n'est pas arrivé vraiment à une organisation ou à donner vraiment des stabilités à nos imams, à les considérer de la considération dont il mérite. Donc, qui fait que aujourd'hui, même un jeune qui va faire une formation, qui va faire des études, donc il va sacrifier des années de sa vie pour cette formation, et par la suite, réellement, et ce n'est pas encore attrayant. Donc, comme d'herbe.
Mais c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'argent?
C'est
culturel, c'est comme ça.
C'est une mauvaise façon de gérer les choses. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Parce que, en réalité, moi, j'ai pas vu un projet de mosquée en France ici et que le projet n'a pas abouti puisqu'ils n'ont pas l'argent.
Ouais.
Alors que c'est des projets qui coûtaient des millions. Si on est capable de dépenser des millions et des millions pour construire des murs, comment celui qui est le moteur de ce mur, on ne peut pas l'entretenir?
Je pense que c'est un modèle culturel, dans le sens où dans nos pays, en Algérie, peut-être au Maghreb en général, en Afrique subsaharienne, j'ai l'impression que l'imama, c'est celui... il est en bas de l'échelle économique ou en bas de l'échelle professionnelle. Dans le sens où,
par défaut,
il a parlé pour Allah.
Il y a cette mentalité.
Ça a été importé.
Oui, tout à fait. Même il y a certains qui ne conçoivent pas que l'imam, qu'il a un salaire. Si, ça suffit que de temps en temps, les quelques miettes qu'on lui donne.
Alors que c'est un vrai académicien. Je veux dire, un académicien dans les pays occidentaux, il est valorisé. Peut-être moins en France que dans les pays anglo-saxons. En Suisse, je sais qu'il est valorisé. Dans l'enseignement, c'est valorisé. Et je pense qu'on a pris le mauvais côté.
Oui.
Du modèle de nos pays et le mauvais côté du modèle français. Et donc, il faudra peut-être évoluer, faire évoluer les mentalités. Peut-être que les jeunes seront un peu plus intéressés par le. Ouais. Parce que c'est un vrai académicien. Il doit être dans la publication, les travaux, au-delà du Rothbard, etc.
Voilà,
de s'intéresser à des sujets sociétals, de s'intéresser aux familles, etc. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités.
Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là.
Non, il faut. C'est très
intéressant. De travailler dans ce sens.
D'ailleurs, je pense pas qu'on aura le temps d'aborder tout. Mais je voulais aborder. Tout à l'heure, Cheikh Minta, il a dit les problèmes de cœur. Non, et tu as utilisé le mot cœur, donc je voulais basculer sur la spiritualité parce que ça fait partie du cœur. Et je voulais mettre en parallèle le cœur, la spiritualité avec les épreuves de la vie.
D'accord.
Je vais pas poser de questions au sens. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens reviennent. On est passé à une période où il y avait beaucoup de pratiques mécaniques de notre croyance.
Oui.
Et aujourd'hui, on revient plus à une pratique spirituelle parce que peut-être ça nous donne plus de liberté et de raison.
Ouais.
Et peut-être plus d'outils face aux épreuves de la vie. Si je ne vais pas trouver une solution dans ma pratique peut-être mécanique, la prière, le ramadan, le hajj, etc., c'est bon, je suis le bon modèle musulman, j'ai la bonne tenue, la bonne... Et peut-être que les gens se retrouvent, parce qu'il y a de plus en plus de difficultés dans la vie, de précarité, je sais pas, familiale, etc., tu le sais mieux que moi. Et donc, il y a un retour à la spiritualité, où le sens, ça nous donne plus de liberté. Tout à l'heure, tu parlais de le fait que la mosquée a un rôle central. Moi, j'ai aussi l'impression, là, c'est un institut, c'est autre chose, mais j'ai l'impression que on se désengage, le musulman se désengage de ce qui se passe dans les mosquées, parce que peut-être qu'il est un peu déçu, justement, de cette gestion un petit peu, des fois, calamiteuse. Et qu'il en a marre d'être cadré dans le sens dans sa pratique mécanique, et se dit bah écoute, moi je vais aller chercher sur internet, je trouve pas ce que j'ai sur internet, je vais un petit peu là à la mosquée, je vais un petit peu chez mon voisin, je vais voir ce qui se passe un peu ailleurs, et je vais en fin de compte je vais développer mes propres outils,
impliqué.
Voilà, exactement. Donc la spiritualité, elle a un rôle important, je pense, dans le sens où on sent qu'on communique directement avec la relation transcendante, la relation horizontale, verticale.
Tout à fait, c'est primordial.
Comment tu vois ça et comment tu qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui aux gens?
D'accord. Juste, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand on a réfléchi le projet de ce centre et avec l'architecte, on lui disait voilà, on veut qu'il y a telle et telle chose, Donc, quand on a au projet final, il nous a fait un dessin du bâtiment. On a fait une maquette. Et quand on a présenté la maquette aux fidèles, il y en a certains qui ont dit mais ça ne ressemble pas à une mosquée. Il dit ça ressemble plutôt à une clinique ou à un hôpital, à une clinique ou à un hôpital plus qu'une mosquée. Je lui dis effectivement. C'est un hôpital pour soigner le cœur malade. J'ai dit, effectivement, c'est une clinique pour ça. C'est vrai, la spiritualité, c'est primordial, c'est essentiel. C'est l'âme même. C'est l'âme de notre croyance, de notre pratique religieuse. C'est vrai, une croyance ou une pratique religieuse sans spiritualité, c'est comme un corps sans vie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a enseigné l'islam, les pratiques, certes, il nous a enseigné les aspects apparents de choses. Les aspects apparents de choses, comme se tenir debout, s'incliner, se prosterner, et la manière dont il prêchait. Donc, ça, c'est des aspects apparents. Mais, en même temps qu'il nous a enseigné les aspects apparents de choses, il y avait une attitude intérieure qui l'accompagnait. Qui est l'humilité, qui est la sincérité, qui est le fait d'aimer le bien pour les autres, qui est le fait d'être totalement détaché de la vie d'ici-bas. Donc, c'est ça l'âme et l'esprit même de toutes les pratiques. Donc, en fait, la spiritualité, c'est ça qui nous permet réellement de mieux vivre notre foi et de mieux comprendre de mieux comprendre cette vie, de mieux comprendre aussi notre pratique. Donc, c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, à un moment donné, beaucoup de musulmans, ils étaient dans une pratique mécanique. C'était comme des robots. Donc, la pratique était dépourvue de sens. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup qui sont en quête de sens, en quête de spiritualité. C'est là où réellement, on va pas, quand on a compris la spiritualité, quand on a compris les fonds, on va pas se focaliser sur les aspects apparents des choses, sur l'apparence, mais on va essayer d'aller vers les finalités, vers le but, donner du sens dans notre pratique. Et ça, c'est quelque chose que très tôt, moi, je me suis rendu compte de ces problématiques quand j'étais encore étudiant à Médine.
Je précise que tu as une bibliographie. Que tu as publié, écrit La voie de l'éducation spirituelle et la protection des âmes. C'est pour ça que je te posais la question.
Voilà, exactement.
Donc, l'amour de Dieu et des prophètes.
Et des prophètes, et placer sa confiance en Dieu, le rappel et l'invocation. Donc, c'est cette quête de sens, moi, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti quand j'étais jeune, à Médine, quand j'étudiais. On étudiait les différentes branches des sciences religieuses. Mais cette spiritualité, ça manquait. Mmh. Donc j'avais toujours ce manque. Je disais, en fait, puis c'est la spiritualité, notamment pour approfondir, on a besoin d'accompagnement. On a besoin d'accompagnement. Donc et ça, réellement, ça me manquait. J'ai trouvé que on en avait pas. Donc raison pour laquelle, quand moi je suis arrivé ici, quand j'ai commencé à enseigner. En fait, le livre, la voie de le cheminement spirituel et la voie de le cheminement et la voie de l'éducation spirituelle. En fait, c'était des cours que j'avais enseignés, que j'ai donnés. Après, au bout de quelques années, après je l'ai écrit comme livre. Quand j'étais jeune, moi, j'aurais aimé trouver un ouvrage, quelque chose. Puis c'est dans cet ouvrage, c'est que j'ai essayé de faire des tracés. Une feuille de route pour quelqu'un qui dit, moi, je suis novice, j'ai envie de cheminer, par où commencer, par quoi commencer, que faut-il faire, que faut-il éviter. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire pour réellement aider des novices comme moi à cheminer.
Comment on peut, j'ai parlé d'épreuves, je voulais faire l'analogie Comment on peut, en même temps, cultiver sa spiritualité quand on est face à des épreuves assez importantes. Comment au moment où on est le plus faible, où il faut trouver le plus de force.
En fait, c'est en réalité, je pense qu'il faut d'abord comprendre la spiritualité. En fait, le fait de bien comprendre la spiritualité, être éduqué spirituellement, c'est ça qui va nous permettre d'arriver à surmonter les épreuves de la meilleure façon, à surmonter si une personne qui est uniquement dans une pratique superficielle, qui va subir une épreuve, il est très difficile que la personne arrive à bien comprendre, à mieux surmonter les épreuves. Il risque d'échouer et il a beaucoup plus de chances d'échouer que de réussir. Mais par contre, quelqu'un qui a une certaine base d'une spiritualité, d'une profondeur dans sa pratique, dans la compréhension, les épreuves ne feront que les renforcer. Donc, d'où, aujourd'hui, dans notre façon de transmettre l'islam, d'enseigner l'islam, je pense qu'il faut commencer déjà par la spiritualité, avant de commencer par les aspects apparents des choses. Wallah alam.
Parmi les choses en fait qui aident justement, tu as commencé par dire que à un certain moment tu voulais trouver un livre qui
oui.
Et là on voit, mashallah, c'est exceptionnel, hein, c'est pas général de trouver des imams comme ça qui ont écrit des livres, plusieurs livres, et qui font beaucoup d'efforts à laisser une trace derrière eux sous forme de livres. D'où est-ce que venue cette volonté d'écrire, en sachant que tu es bien occupé à gérer une mosquée, une association, à l'initiative de beaucoup de...
La volonté est venue, comme j'ai dit, quand j'ai commencé à enseigner notamment le cours de spiritualité. Donc, c'est vrai, les étudiants qui suivaient le cours, ils trouvaient que c'était très intéressant, ça les intéressait beaucoup. Donc, à un moment donné, j'ai travaillé avec l'UGM, l'Union des Jeunes Musulmans, qui était une association lyonnaise qui était très active dans le domaine des sensibilisations. Et des... D'ailleurs, Farid, aujourd'hui, fait, ouais. il est l'un des responsables ouais. de l'UGM. Mais c'était bien avant, le, avant l'arrivée de Fed. Donc, j'ai travaillé avec l'UGM et notamment aussi, j'ai travaillé avec avec les éditions Tawhid. Donc, à un moment donné, nous, on avait de ce qu'on appelle des halakat, en fait, des cercles d'apprentissage. Et dans ces cercles d'apprentissage, des fois, des frères, quand ils devraient préparer des cours, quand ils devraient préparer des cours ou des, et préparer des interventions, ils avaient du mal parce que la majorité des références, ils sont en arabe. Et beaucoup sont pas arabophones. Donc, l'idée est venue de dire, de faire sur notamment les thèmes spirituels, des ouvrages faciles, accessibles, qui pourra aider des gens qui cherchent à préparer des interventions de cours et pour pouvoir s'en servir. Donc l'idée est venue de ça.
D'accord, Inch'Allah. Et puis une des choses aussi que j'ai découvert, c'est que tu as aussi traduit le Coran avec Cheikh Youssef Ibrahim.
Non, c'était juste relire.
Une relecture.
Une relecture. Une relecture.
Inch'Allah. On est un petit peu pressé aujourd'hui par le temps et on veut aussi profiter de cette occasion de parler du projet de Zakat.
Oui.
Parce que, Inch'Allah, aussi, tu étais à l'initiative d'un projet qui s'appelle Zakat France.
Oui.
Et puis, on voulait aussi apprendre comment cette initiative a...
D'accord. En fait, l'idée de Zakat France est née aussi des cours que j'ai donnés. En fait, comme parmi les cours que j'ai enseigné le fiqh, donc notamment fiqh al-ibadat. Donc, quand j'ai étudié avec mes étudiants chapitre zakat, ça m'arrivait très souvent à la fin du chapitre que je disais, hélas, si seulement le musulman pratiquait correctement zakat.
Qui est un pilier.
Voilà, qui est l'un des piliers de l'islam. J'ai dit, ça nous aurait aidé à surmonter beaucoup de difficultés, à résoudre beaucoup de problèmes. Parce qu'en réalité, zakat, ce n'est pas un fardeau que Allah nous impose, mais au contraire, c'est un cadeau. Puis c'est un levier important pour lutter contre la pauvreté et le chômage. Mais malheureusement, ce n'est pas pratiqué correctement par le musulman. Donc ça m'arrivait d'exprimer ces remords, ces regrets que j'avais. Jusqu'en 2011, les groupes d'étudiants qui étaient avec moi, et quand on a fini d'étudier le chapitre de Zakat, et que j'ai exprimé ces remords, ces regrets que j'avais, que le fait que les musulmans ne pratiquent pas Zakat correctement, comme Allah voudrait, il y a l'une de mes étudiantes qui me dit, mais cher, pourquoi vous ne faites pas quelque chose? J'ai dit, moi? Elle me dit, oui. Elle me dit, mais les gens, ils vous connaissent, ils vous font confiance. Pourquoi? J'ai dit, en fait, moi, je n'aime pas avoir affaire avec l'argent. J'ai dit, parce que je disais que lorsque tu peux travailler tranquillement, et tout le monde t'aime, tu respectes, mais dès que tu touches à leur poche, tu deviens leur cible préférée. tu deviens ouais, leur cible préférée. Voilà. Donc, j'ai dit, raison pour laquelle je vais pas toucher aux poches des gens. Donc, elle me dit, non, faites quelque chose. Vous vraiment. Bon, quand elle disait, j'ai trouvé qu'elle avait raison. C'est vrai. Moi, chaque année, j'ai dit à mes étudiants, hélas, si seulement les musulmans, ils font correctement zakat, mais, et moi, je fais rien pour
ça change
pour que ça change. J'ai trouvé que ce n'était pas normal. Donc ça m'a fait réfléchir. Après je me dis c'est très difficile, moi je suis très occupé et puis j'aurais besoin de beaucoup de personnes qui m'aident dans ces projets. Est-ce que vous êtes prêts à m'aider? D'accord. Est-ce que vous êtes prêts à m'aider? Donc certains qui étaient présents ce jour-là, ils m'ont dit oui, nous sommes prêts à vous aider. Nous sommes prêts à vous aider. Donc à partir de là, j'ai dit, donc, Inch'Allah, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de faire quelque chose. Et la même année, j'étais invité en Guinée, Conakry, en Afrique de l'Ouest, parce que il y a l'État guinéen qui avait essayé de créer une institution
gouvernementale.
Voilà, voilà une institution pour, ouais, pour la gestion des zakats. Donc, il y avait un séminaire sur zakat. Donc, j'étais invité à ça. Je suis parti avec l'un de mes étudiants, mes anciens, l'un des étudiants qui était avec moi en cours quand on discutait de la pratique des zakats. On est parti ensemble à deux. Donc, et suite à notre retour de Guinée, on s'est dit tous les deux qu'on va créer quelque chose. Donc, avec ses frères Imad et aussi l'un des frères d'ici, Saïd, tous les trois, on a décidé de créer soit une association. Bon, Imad, il a fait des recherches, il a trouvé que ce qui serait plus adapté, c'est de faire un fonds de dotation. Donc, à trois, on a créé un fonds de dotation vers fin 2011. Vers fin 2011, qu'on a commencé. Donc, les buts étaient que de collecter zakat et les redistribuer. Et dans notre manière de les redistribuer, c'était surtout accompagner les ayants droit à arriver à l'autonomie. On voulait pas continuer à faire ce qui se faisait, c'est-à-dire donner des miettes aux gens aujourd'hui. Peut-être on subit à ce besoin aujourd'hui, mais demain, il est encore dans le besoin, il est pauvre. On s'est dit, nous, il faut qu'on arrive, comment dire, des gens qu'on va les accompagner, qu'on les accompagne à, pour arriver à l'autonomie.
Moi, je me pose la question, c'est déjà zakat.
Ouais.
Le modèle tel que... Parce que le zakat en Guinée-Conakry, j'imagine qu'il n'est peut-être pas le même... il n'est pas applicable de la même manière dans un pays musulman, non musulman, etc. C'est comment l'appliquer ici?
En fait...
Parce que déjà, les gens... Il n'y a pas beaucoup de gens qui payent zakat, faut le savoir.
Il y en a
qui savent même... Je ne sais même pas s'il y en a qui savent...
Il y en a par ignorance.
Il y en a beaucoup par ignorance.
Donc, c'est déjà la prise de conscience, le côté pédagogique. Après, le côté à appliquer. Selon quelle base?
Voilà.
Jurisprudentielle, à qui sont les ayants droit?
Voilà.
Qui sont les ayants droit et comment on l'applique? Parce qu'aujourd'hui, on est une composante de la société française avec tout ce que ça représente. Laïcité, je me comprends, mais bon, bref, on va pas en parler. Mais tout le côté aussi économique et législation.
En fait, nous.
Et politique.
Voilà. Déjà, on voulait avoir un cadre reconnu officiellement pour cette activité. Donc, qui nous a mené à la création d'un fonds de dotation qui est un peu différent d'une association. Donc, on a créé un fonds de dotation. Après, on a commencé par un travail de sensibilisation, Donc, bon, moi, étant donné, je suis ici, imam à la mosquée ici, on a commencé par la mosquée ici, et d'autres mosquées, comme, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, je connais pas mal de mosquées, des responsables de mosquées, donc, on a commencé à faire des conférences, dans des mosquées, à faire des conférences au centre Chatibiat. Donc, là où on nous permettait de venir pour expliquer, sensibiliser les gens, on allait, donc, on a commencé par là. Bon, après aussi, on a créé un site internet, page Facebook. Donc, nous avons commencé la sensibilisation. Donc, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a commencé la première année. Je crois qu'on a collecté à peu près 10 000, 11 000 euros la première année. Et au fur et à mesure, chaque année, la collecte augmente. Bon, notre manière de distribuer, aussi pareil, on distribuait pas comme ça. Il fallait constituer un dossier. C'est-à-dire, les ayants droit, ils sont définis par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah a défini dans surat Tawba, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Donc, huit catégories de personnes qui sont les ayants droit des zakat. Donc, ceux qu'on rencontre le plus souvent, ce sont les pauvres et les nécessités, ou les gens qui sont lourdement endettés. Ce sont ces trois catégories qu'on rencontre le plus. Après, il y a huit catégories. Donc, nous, des gens qui viennent faire une demande, on leur demande de constituer un dossier. Et dans ce dossier, on demande des justificatives. Des justificatives. Donc, à partir du moment où le dossier est constitué, ça passe à une commission. Donc, en fait, pourquoi le dossier? Parce que nous cherchons à comprendre pourquoi cette personne est en difficulté? Pourquoi la personne est en difficulté? Donc, si on arrive à comprendre pourquoi la personne est en difficulté, s'il s'agit puisque la personne n'a pas suffisamment de revenus pour pouvoir subvenir à ses besoins, on va l'aider. Mais s'il s'agit que la personne gère mal ce revenu, pareil aussi, on va l'aider. on va l'aider sur le champ, mais on va exiger de l'accompagner pour la gestion.
C'est presque de la curatelle.
Voilà. Donc, de l'accompagner. Donc, en fait, en réalité, donc, quand on constitue un dossier, ça passe en commission. Quand ça passe en commission, quand on décide d'aider une personne, quelle est la meilleure façon aussi de l'aider? On va pas lui donner l'argent comme ça, de dire, bon, non. On va regarder quelle est la meilleure façon d'aider la personne. Par exemple, les gens qui sont endettés, au lieu de lui donner l'argent, on va payer directement ses dettes. S'ils ont des dettes locatives, des factures, on va le payer directement. On va pas lui donner, ainsi de suite. Donc, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, nous arrivons à accompagner des centaines de familles. Et en termes de collecte, et nous sommes environ à 300 000 euros annuels de collecte des zakats que nous collectons annuellement.
Il y a combien de musulmans dans l'agglomération de Lyon, à peu près?
Non.
Je sais que les données sont en France, les données ethniques.
Voilà,
et les
bon,
sont
on peut dire
pas.
On
a une estimation.
Entre 400 000 et 500 000.
400 000, 500 000. Ouais. Donc, ton 300 000 euros, c'est encore un petit chiffre par rapport à ce que ça représente. Mais bon, alhamdoulilah, le baraka.
Nous aussi, c'est vrai, on est réduit en termes d'équipe. Et puis, même aussi en termes, puis c'est chacun d'entre nous a mille et une occupations qui fait que réellement, on n'est pas investi à fond dans la gestion. Et puis, même aussi, on manque aussi de compétences. Donc, ça serait peut-être une occasion de lancer un appel s'il y a des frères et des sœurs bénévoles qui, puis c'est vrai, nous, dans la gestion, nous essayons de tout faire, de nous limiter à un huitième, qui est notre frais de fonctionnement, que ça ne dépasse pas un huitième, qui fait que on est très limité à notre capacité d'embaucher. Donc, aujourd'hui, nous avons des assistantes qui sont salariées. Il y a une troisième, notamment dans tout ce qui est secrétariat d'administration et gestion du site qu'on va embaucher. Mais on est très limité par
rapport. Pourquoi un huitième?
Parce que comme j'ai dit, Allah a défini 8 catégories.
D'accord.
Parmi les 8 catégories, il y a ceux qui y travaillent.
Ah, ok, d'accord.
Donc, okay, ceux qui y travaillent. Donc, en fait,
Est-ce que vous avez une spécificité dans Zakat France par rapport aux autres organisations? Il y a plusieurs organisations humanitaires, etc., qui collectent Zakat. Vous avez une spécificité?
Non, notre spécificité est que nous distribuons uniquement en France.
Ah, d'accord.
Donc, uniquement en France, pas à l'étranger.
Vous distribuez qu'en France.
Voilà.
Et on parle des ayants droit, donc je sais qu'il y a plusieurs avis, deux avis qui s'opposent. Mmh. L'un dit pour les musulmans, exclusivement pour les musulmans, et l'autre dit que ça peut être ouvert aux non-musulmans.
Oui, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les 8 catégories, Allah il a défini « wal mu'allafat qulubuhum » et ceux dont le cœur est à gagner à l'islam. Ceux dont le cœur est à gagner à l'islam, les savants ils sont uniment d'accord que ça peut être un non-musulman.
D'accord.
Voilà.
Mais ça risque pas de créer... parce que j'ai vu aussi sur le site que c'est marqué ceux qu'on cherche à gagner leur cœur, et la zakat, c'est exclusivement pour les musulmans. Ça risque pas de créer des problèmes par rapport à la société française en général, là où...
Non, en tout cas, nous, pour nous... nous
pour vous, non, vous la prenez tranquille.
Non, voilà, exactement. Donc, même aussi, il faut savoir que des fois aussi, nous, dans Zakat France, il y a des gens qui ont des intérêts bancaires qui cherchent à s'en débarrasser. Ouais. Ça, nous récupérons. Et si on a des demandes de non-musulmans, on peut les redonner.
D'accord.
Ça. Ouais.
D'accord. Moi, je sais que dans beaucoup d'associations, enfin des associations sérieuses, humanitaires, je parle. Après, je connais pas les autres. Mais que dès qu'il y a des projets importants de collecte d'argent, etc., il y a toujours au préalable un plaidoyer. Donc, de dire, voilà... Nous, notre position, elle est surtout sur des sujets importants, là, en France, la femme, l'éducation des enfants, le non-musulman, etc. Donc, tout de suite, pour être clair dès le début, voilà, notre plaidoyer, c'est ça, notre position, c'est ça, neutralité ou pas neutralité, etc.
Non, en tout cas, par exemple, moi, je me souviens, il y a 2 ans, il y a eu un incendie d'un immeuble à Villeurbanne, où il y avait des familles musulmanes et non-musulmanes. Donc, nous avons aidé des familles musulmanes et des familles aussi
non-musulmanes. Grâce à ça, à ce dispositif des zakat.
Oui.
OK.
J'ai une dernière question par rapport à ce sujet. Est-ce que vous posez souvent la question, on est dans cette personne, est-ce qu'on se substitue à l'État?
Non.
Est-ce qu'on n'est pas en train de faire le travail?
Non. En fait, nous, parmi notre manière de démarche, quand on constitue les dossiers des personnes, donc, on voit, des fois, on trouve qu'il y a certaines personnes qu'ils ont certains droits sociaux qu'ils peuvent bénéficier, que la personne n'a pas fait le nécessaire ou bien la personne ne sait pas. Donc, on les accompagne, on les aide à faire les démarches pour avoir les aides dont ils ont droit au niveau de l'État. On les aide à faire les démarches nécessaires. Après, s'ils ont besoin d'un plus,
d'accord,
pour un plus, donc nous, on les rapporte le plus.
Donc, il y a un travail de contrôle aussi, d'accompagnement et de contrôle avant de validation.
J'aimerais aussi profiter juste une dernière chose, puisqu'on parle de ce sujet important. Bien sûr, vous avez beaucoup de ressources sur le site de Zakat France, sur la manière de payer la Zakat. Il y a même un calculateur, vous pouvez calculer. Mais j'aimerais aussi recommander, c'est une recommandation personnelle, le livre de Cheikh Mustafa Brahmi, c'est un guide. Moi, je l'ai trouvé génial. Il répond exactement aux questions les plus connues d'une manière très pédagogique avec des tableaux, des graphes.
Très comptable.
Oui, tout à fait. Comme à l'accoutumée de Cheikh Mustafa Brahmi, il est vraiment
pédagogue.
Très pédagogue, précis, clair.
Donc, je recommande ça pour toute personne qui aimerait
comprendre Zakat. Ouais. D'ailleurs, même c'est l'une des personnes à qui on fait souvent l'appel pour animer des conférences.
On l'a reçu aussi une fois.
Ça passe vite.
Ça passe vite.
On a envie de garder plus longtemps, mais ça va pas être possible. On a coutume de terminer le podcast avec quelques questions. Donc la première, c'était quoi, les trois verbes?
Voilà.
C'est s'il fallait te définir en trois verbes, des verbes, lesquels tu choisirais?
S'il fallait me définir en trois verbes.
Voilà.
Servir. Je dirais servir. Et accompagner, servir, accompagner, espérer.
Parfait. Et puis la dernière question, c'est la deuxième question qu'on a l'habitude de poser, c'est imaginons que tu as la possibilité de faire une randonnée d'une journée avec une personne ou un personnage historique, vivante, pas vivante, etc. Vous choisissez, à part le prophète, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et les compagnons.
Et les compagnons.
On élargit le champ, c'est pas grave.
Avec qui tu aimerais partager cette randonnée?
C'est
une ou deux ou trois.
Hormis le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Hormis le prophète.
Ça peut être quelqu'un de l'association, comme n'importe qui, un personnage historique,
moins proche.
J'aurais choisi Omar ibn al-Khattab parmi les compagnons. Et une deuxième personne, Nelson Mandela.
D'accord.
Ouais, Nelson Mandela. Si je dois choisir une troisième personne, en tout cas, si un musulman, je choisirais Omar ibn al-Khattab.
Et pour quelle raison Omar ibn al-Khattab et Nelson Mandela?
Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, il dit, parmi les communautés qui nous ont précédés, il y avait des gens inspirés. C'est-à-dire qu'il y avait des gens inspirés. S'il devrait en y en avoir dans ma communauté, ça serait Omar.
D'accord.
Donc, Omar, c'était pas seulement un musulman ordinaire, mais il était inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Omar était spirituellement profond et aussi il était visionnaire. J'aimerais m'inspirer de lui.
D'accord.
Voilà. Et Nelson Mandela, pourquoi Nelson Mandela? Parce que c'est quelqu'un, son endurance, sa patience, et aussi le fait que sa capacité de pardonner. C'est sa capacité de pardonner, je pense, dans la vie. C'est des qualités que je trouve très très importantes. C'est-à-dire le fait d'être patient, et endurant, et en même temps aussi le fait d'avoir, comme dans l'expression islamique on dit, avoir une poitrine large.
Alors,
je veux pas être mentaliste, mais je pense que tu as un fils qui s'appelle Omar.
Non.
Ça sera coupé.
J'ai un fils qui s'appelle Ibrahim et l'autre Youssouf.
Alors, pour les gens qui veulent encore te retrouver sur Internet. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux.
Oui, j'ai une page Facebook. Ouais. Et aussi, donc, Mohamed Minta, la mosquée aussi. La mosquée de Décines, on a le CID, le Centre Interculturel de Décines. Ouais. Donc, l'institut qu'on a ici dans le centre aussi, ISRA. Mmh. Donc, l'institut ISRA. Ouais. Voilà. Et j'ai un blog ou un site qui est en cours de construction, Inch'Allah.
D'accord.
Mohamed Minta.
Ouais. Ben, on va taguer, on va mettre les liens de toutes ces institutions et puis du blog aussi, la Fondation Zakat aussi.
Zakat France,
Inch'Allah. Ouais. Donc voilà, on arrive à la fin. C'était rapide, mais merci beaucoup. C'était très intéressant.
Merci à vous de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer, m'adresser à mes frères et sœurs. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos pas, qui nous assiste dans nos efforts, qui affermit notre foi et qui nous accorde la sincérité dans tout ce que nous faisons.
Exactement, la sincérité, c'est très important. Barakallahu fik, Cheikhna.
Barakallahu fik.
Nos auditeurs, nos auditrices, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et vous pouvez nous contacter par email et sur toutes les pages et les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Mohamed, merci beaucoup.
Merci à toi. Barakallahu fikoum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum.